Voilà quelques réflexions sur la liberté en général. Alors j'ai intitulé mon propos d'une citation de saint Paul, appelée à la liberté. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons développé un grand sens de la liberté et de la dignité de la personne humaine. On ne peut que s'en réjouir. Cependant, la compréhension de ces notions a beaucoup évolué. Et plus récemment se déploie une conception de plus en plus forte de la liberté individuelle. J'en reparlerai. Malgré un sens aigu de la liberté, les restrictions de liberté semblent se multiplier. Nous sommes de plus en plus sous surveillance, avec la multiplication des caméras de surveillance. Nous sommes sous une contrainte de multiplication des lois et des règlements administratifs dans notre vie quotidienne. Et je pense au monde paysan, ayant un peu de famille dans ce milieu-là, qui est bouffé par les papiers à remplir chaque jour, au lieu de s'occuper de leurs champs ou de leurs bêtes. La loi contre les séparatismes a mis aussi, fait de la laïcité, une laïcité de contrôle, et non pas simplement de séparation et de liberté. Le Conseil d'État a reconnu d'ailleurs que c'était une atteinte à la liberté de culte, mais pas assez pour remettre en question la loi. Aujourd'hui, donc, tout le monde est protégé, les citoyens sont protégés, les cultes sont protégés, l'armée ou la police sont présents autour des synagogues, des églises, des temples, et se permettent parfois d'entrer dans les églises, pour ce qui nous concerne. Et on demande de plus en plus le soutien des forces de l'ordre dans une société inquiète, menacée et fragile. Or, les forces de coercition, malheureusement nécessaires devant les dangers, témoignent aussi d'un échec de la cohésion sociale, de l'intégration des différentes composantes de notre société, et attestent d'un niveau de conscience morale très bas qui touche à la responsabilité et à la liberté d'engagement de chacun. Sur le plan de la communication ou de l'information, nous sommes toujours plus manipulables et soumis à des fake news, à des influenceurs qui nous évitent des réflexions personnelles approfondies. Par ailleurs, on cherche des coachs et autres conseillers dans tous les domaines de notre vie, y compris des coachs sportifs, etc., pour nous cornaquer dans la vie familiale, la vie professionnelle, le sport et la recherche de bien-être. Et il vient de sortir un livre... sur le gourou, qui malheureusement, surtout dans toutes les propositions de sessions de bien-être, ça peut se terminer mal. Les dénonciations d'emprise et d'abus sexuels, de soumission chimique sont quotidiennement présentées dans les médias. Alors sommes-nous vraiment libres ou de quelle liberté parlons-nous? Et alors... Donc, à propos de la liberté absolue, dans l'encyclique Veritatis Splendor, le pape Jean-Paul II écrivait « Dans certains courants de la pensée moderne, on en arrive à exalter la liberté au point d'en faire un absolu qui serait la source des valeurs. C'est dans cette direction que vont les doctrines qui perdent le sens de la transcendance ou celles qui sont explicitement athées. On a attribué à la conscience individuelle des prérogatives d'instance suprême du jugement moral » qui détermine d'une manière catégorique et infaillible le bien et le mal. À l'affirmation du devoir de suivre sa conscience, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai par le fait même qu'il vient de la conscience. Mais de cette façon, la nécessaire exigence de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité, d'authenticité, d'accord avec soi-même, au point que l'on en arrive à une conception radicalement subjectiviste du jugement moral. Ça, c'était fin de citation. Des courants de pensée contemporaine, donc refusant toute transcendance, toute réalité préexistante, invitent chacun à se créer soi-même. C'est un grand thème de la culture ambiante aujourd'hui, et donc à décider ce qu'il veut être, y compris dans son corps et son sexe, au nom de cette liberté absolue. L'être humain se prend pour Dieu et ne reconnaît plus de limites à sa liberté. Ainsi, le projet de loi sur la fin de vie a été fortement soutenu par certains groupes qui présentent l'euthanasie comme l'ultime liberté de l'être humain. Cette liberté absolue de l'individu qui prétend ne s'appuyer que sur lui-même, refusant toute référence à une vérité supérieure, à une vérité transcendante, ouvre la porte à la toute-puissance et conduit à différentes formes d'esclavage. On devient esclave de ses propres tendances égoïstes, enfermé dans un égocentrisme qui isole, esclave de ses passions, mais aussi esclave des modes. Aujourd'hui, les jeunes, les adolescents se refont le visage selon des critères de mode passagère. Il faut être un peu plus viril aujourd'hui chez les jeunes hommes. Non seulement on devient esclave de ses penchants, de ses fantasmes, mais on risque de faire pression sur les autres pour satisfaire ses propres désirs. Au nom de la liberté individuelle, on ne respecte pas la liberté d'autrui. C'est vrai dans le domaine des abus sexuels, mais aussi quand on impose aux soignants, au nom de la liberté individuelle, des actes qui vont contre leur conscience morale. La liberté absolue est pour moi une illusion subjective et exclusive qui ne mène nulle part. Elle contredit la nature même de l'être humain qui est un être de relation, un être vivant en société. Comment édifier une société fraternelle, excusez-moi du terme, avec une humanité faite d'autant de liberté absolue ? Et l'éclatement de la société française devrait nous faire réfléchir. Alors oui, l'être humain est un être vraiment libre, mais d'une liberté limitée, d'une liberté de créature. Nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes, nous nous recevons d'autres, et de nos parents d'abord, mais aussi de Dieu. Et l'homme, je cite le passage de Vatican II, dans l'Église, dans le monde de ce temps, « La dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussée instinctive ou d'une contrainte extérieure. » L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Ce n'est toutefois pas que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale. En fait, la personne humaine devient libre quand elle s'humanise, quand elle acquiert une certaine maîtrise d'elle-même pour mieux se donner, quand elle déploie ses capacités au service des autres, quand elle recherche la vérité et le bien. Ultimement, elle devient libre quand elle se tourne vers Dieu, quand elle l'écoute et agit selon la vérité de l'amour. Car l'être humain a vocation d'aimer et d'être aimé. Or, cette vérité de l'amour est brouillée en nous par le péché. C'est pourquoi Dieu a voulu nous la révéler, nous l'a témoigné par Jésus son Fils qui a donné sa vie pour nous. Seul l'amour de Dieu, premier servi, rend libre. Donc oui, l'être humain est libre d'une liberté limitée, finie, mais cette liberté peut toujours grandir. Cette liberté se conquiert, non pas contre la liberté des autres, mais dans la recherche du vrai et du bien et le don de soi au service de Dieu et de tous. L'éducation des enfants est au service de la croissance de la liberté. Les contraintes de l'éducation ont pour but de leur éviter de tomber dans les pièges tendus à leur liberté, d'apprendre à discerner le vrai et le bien qui permettent à la liberté de se déployer. Et donc, il y a une longue citation aussi, j'ai une longue citation du pape Jean-Paul II, mais que je vais passer. La liberté s'enracine, dit le pape Jean-Paul II, dans la vérité de l'homme. Et il faisait écho à cette parole de Jésus, « La vérité vous rendra libre ». Cette vérité n'est pas le fruit d'un consensus tiré des opinions subjectives de chacun, mais une vérité établie sur le réel, la vérité étant l'adéquation du concept au réel, une vérité que tous peuvent expérimenter, même si nous ne la possédons pas et que nous sommes toujours en quête d'une vérité pleine. Connaître l'être humain, acquérir une anthropologie fondée sur la raison, mais aussi sur ce que Dieu nous révèle de nous-mêmes, est indispensable pour développer la liberté. Certes, je peux disposer de moi comme je veux, de manière subjective, au risque de me détruire. Mais je serai beaucoup plus libre si je respecte ce que je suis et si j'engage ma liberté à devenir toujours davantage moi-même en me donnant. car l'être humain se trouve, dit le Concile Vatican II, dans le don désintéressé de lui-même. Plus la personne grandit en humanité, plus elle s'humanise, plus elle devient libre. Foi et raison s'accordent pour faire comprendre ce qui humanise l'être humain et ce qui le déshumanise. Et pour moi, c'est un grand critère de discernement. Voilà. Est-ce que telle action va me faire grandir en humanité ou va me déshumaniser ? Et puis, donc, il y a cette liberté intérieure qu'on peut retrouver, bien sûr, dans la liberté de conscience, mais qui est aussi la liberté intérieure, c'est l'intégration des différents déterminismes qui... dans laquelle la personne humaine naît et quelquefois dans laquelle elle est, dans toute son éducation, etc., peut provoquer aussi certains déterminismes. Et donc l'être humain qui intègre les données de départ, qui intègre son existence, sa situation de créature, son physique, parce qu'il est aimé tel qu'il est, celui-là apprend à développer ses capacités et à grandir en liberté. Et en fait, ce qui fait grandir la liberté en nous, c'est l'amour. D'abord, l'amour des parents pour un enfant, mais ce savoir aimer profondément libère notre liberté et nous invite à déployer notre liberté. Je pense, j'aime bien ce passage du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, les versets 8 à 14, où le bien-aimé vient au-devant de sa bien-aimée cachée derrière un mur. Alors je cite ce passage. « La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. » Il parle, mon bien-aimé, il me dit « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies, sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix est douce et ton visage charmant. » Et donc cette liberté, je veux dire, elle est quelquefois, elle est prisonnière des blessures que nous avons subies, que nous avons reçues dans notre histoire personnelle, et donc nous nous protégeons derrière des barrières, derrière des murs, et il faut que il y a un amour extérieur, d'une certaine manière, qui vient nous chercher pour nous mettre au large et libérer notre liberté. Et donc, voilà, cette liberté intérieure est profondément liée à l'amour, pour moi. Il n'y a pas de liberté sans amour. La liberté naît avec l'amour et grandit avec l'amour. Un amour vrai qui vient du fond du cœur. Et donc, en conclusion, je dirais que la vraie liberté se conquiert, elle passe par un engagement, par un apprentissage à l'école de la vérité, à l'école d'une loi qui vient de Dieu et qui est inscrite mystérieusement dans la nature même de l'être humain. Elle s'accomplit avec l'aide de l'Esprit-Saint, car, comme le dit saint Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Elle est la liberté d'aimer, selon la vérité de l'amour, jusqu'à aimer ses ennemis. Là commence la vraie liberté. C'est-à-dire, du coup, je ne suis pas prisonnier des ennemis, je ne suis pas obligé de me replier sur moi-même. Je peux souffrir des ennemis, mais je peux les aimer. Et là est la vraie liberté. Elle ne se laisse plus neutraliser par le péché ou le mal, elle est victorieuse du mal par le bien. Alors que Dieu nous fasse la grâce de recevoir cette liberté et de lui faire porter du fruit. Voilà quelques réflexions sur la liberté.